On vous retrouve à 11h heure de Paris. Pour l'instant, il est 10h10 ici en France.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quel avenir pour la CAN? Depuis hier, tout le gratin du football africain est à Rabat, au Maroc, pour un symposium organisé par le nouveau président de la Confédération africaine de football. Vous savez qu'Ahmad Ahmad souhaite notamment réformer la CAN, sa fréquence, la période de compétition ou encore le nombre d'équipes qualifiées. En tout cas, certains changements pourraient être adoptés dès ce vendredi, dès la fin de cette semaine, lors d'une assemblée générale extraordinaire des 55 pays membres de la CAF. Alors dites-nous si cette compétition doit désormais se tenir en juin-juillet, une fois les championnats européens terminés. En tout cas, cette question est débattue en ce moment même à Rabat. Faut-il, comme pour l'Euro de football, augmenter le nombre d'équipes en phase finale, passer donc de 16 à 24 participants? Êtes-vous pour ou contre un tournoi tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans? On en parlera évidemment, vous êtes très nombreux au standard, 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos commentaires, vos réactions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vous nous posez toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité et nous allons commencer avec Poupouche qui nous appelle du Gabon. Il est à Libreville exactement. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les étudiants de l'IAI.
Ah, vous êtes étudiant à l'université, c'est bien ça?
Oui, oui.
Très bien, on les salue évidemment au passage. Quelles sont vos questions? Vous avez des questions sur l'Afrique du Sud?
Évidemment, Juan. Madame Makosi Kosa, députée de la majorité présidentielle en Afrique du Sud, a reçu des menaces de mort parce qu'elle a défendu l'idée d'un vote à bulletin secret pour la motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Alors, Juan, que peut-on savoir sur le groupe qui l'a menacé de mort? A-t-elle reçu le soutien de son parti politique, l'ALC? Et la toute dernière question, quelles sont les chances pour que ce vote se fasse à bulletin secret le 8 août lors de la motion de défiance
contre le président Zuma? Effectivement, une énième motion de défiance contre le chef de l'État doit être présentée au Parlement le 8 août. Alors c'est vrai que l'opposition demande un vote à bulletin secret, espérant ainsi que certains députés de la majorité voteront en faveur de la destitution du président de la République. Et on attend maintenant la décision de la présidente de l'Assemblée qui doit annoncer si elle autorise un tel vote. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Johannesburg. Poupouche en parlait à l'instant, la semaine dernière, donc cette députée de l'ANC qui est en faveur d'un vote à bulletin secret, cette députée a reçu des menaces de mort. Que sait-on justement sur les auteurs de ces menaces?
Alors les menaces ont été postées sur sa page Facebook la semaine dernière. Quelques lignes, on va t'avoir, il te reste 21 jours. Alors c'est pas la première fois que Makosi Kosa reçoit des menaces. Depuis des mois, elle dit recevoir des textos d'insultes. La Ligue des Jeunes de l'ANC a également essayé de l'intimider en manifestant devant chez elle. Et puis il y a eu des menaces plus subtiles, des cadres de l'ANC, et notamment le ministre de la Police qui, il y a 10 jours, a dit « ceux qui défient l'ANC en appelant à un vote à bulletin secret, doivent être disciplinés ».
Oui, ça fait des mois maintenant que cette députée dans le collimateur de la fraction pro-Jacob Zuma.
Oui, parce qu'elle dénonce la corruption au sein du mouvement et du gouvernement. Elle a attaqué le chef de l'État à plusieurs reprises, lui demandant de démissionner. Et dernièrement, donc, elle s'est prononcée pour cette motion de défiance à bulletin secret. Alors, pour en revenir aux menaces, les premières informations étaient que le compte Facebook sur lequel ces menaces avaient été postées est lié à un numéro de téléphone qui appartient à un membre d'un groupe qui s'appelle Black First, Land First. Les Noirs d'abord, la Terre d'abord. C'est un groupe radical, pro-Jacob Zuma, qui a dernièrement menacé des journalistes qui faisaient leur travail et dénoncé la corruption. Et leur devise, la devise de ce groupe est « un colon, une balle ».
Ouais. Cette députée est-elle soutenue par son parti, par l'ANC? C'était l'une des questions posées par Poupouche.
Alors, ça fait des mois qu'elle dit avoir contacté la présidente du Parlement pour lui faire part de ses menaces, sans réponse. Guère mieux du côté de la police. Hein, on l'a entendu, c'est celui qui a appelé il y a quelques jours à ce qu'elle soit disciplinée. En revanche, depuis deux jours, il y a un petit changement. Hier, le Parlement a condamné ses menaces dans un communiqué et a ajouté qu'elle bénéficierait d'une protection supplémentaire. Et le ministre de la Police est revenu sur ses propos, disant qu'une enquête avait été ouverte. Donc, pas un franc soutien, mais un début, et qui est largement dû à la réaction de la société civile et de la presse qui se sont insurgés du manque de soutien.
Alors, je le disais tout à l'heure, l'opposition demande un vote à bulletin secret, espérant ainsi que plusieurs députés de la majorité voteront en faveur de la destitution du président de la République le 8 août prochain. Y a-t-il des chances pour que le vote à bulletin secret soit validé, acté par la présidente de l'Assemblée nationale ?
A priori, non, parce que la présidente de l'Assemblée nationale, Baleka Mbete, est une proche du chef de l'État. Et même si le chef de file ANC au Parlement affirme que, bulletin secret ou non, les députés ne voteront jamais contre leur président, je pense qu'ils sont quand même inquiets. Il y a une colère grandissante envers le chef de l'État et son cercle de proches, avec semaine après semaine des scandales, des révélations. Et on ne sait jamais, il pourrait y avoir un risque qu'avec un vote à bulletin secret, Zuma puisse tomber. Je vous rappelle que l'ANC est majoritaire au Parlement. Il faudrait qu'environ 60 députés ANC, Parti communiste, basculent et votent en faveur de cette motion pour qu'elle passe. Donc Baleka Mbete n'a aucun intérêt à organiser un vote secret. Le problème est que quand elle a été saisie par l'opposition, elle a indiqué qu'elle n'était pas contre un tel vote, mais qu'elle n'en avait pas les pouvoirs. Or, la Cour constitutionnelle qui a été saisie par l'opposition a jugé, c'était il y a à peu près 3 semaines, qu'elle en avait les pouvoirs pour protéger justement la démocratie. Mais en plus, la Cour a ajouté, en cas de refus, elle doit se justifier sa décision d'un point de vue légal. Donc, depuis, on attend sa réponse. Ici, les analystes politiques pensent que le clan Zuma est en train d'éplucher les textes pour essayer de trouver un échappatoire. L'autre solution serait tout simplement gagner du temps. En refusant un vote à secret, l'opposition ferait appel, la motion serait reportée, et avec un peu de chance, ça nous amène jusqu'à la fin de l'année, sachant qu'en décembre, l'ANC doit choisir le successeur de Jacob Zuma à la tête du parti. Et peut-être que le chef de l'État pourrait alors en profiter pour s'éclipser sans perdre la face.
Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Merci beaucoup Alexandra Brangeon. Je signale aux auditeurs que c'était votre dernière participation dans l'émission en tant que correspondante à Johannesburg. Après combien d'années en Afrique du Sud ?
4 ans.
4 ans en Afrique du Sud. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier de votre disponibilité, de votre engouement systématiquement quand on vous appelait pour répondre aux questions des auditeurs. Donc, bon retour à Paris et au plaisir, merci. Alexandra, de vous voir dans les couloirs de RFI et même dans ce studio.
Oui, tout à fait.
À bientôt. Merci à vous, Alexandra Brangeon. 10h17 à Paris. Ce sont vos questions. 33 9 693 693 70. Bonjour, Eladji.
Bonjour.
Vous êtes au Sénégal ?
Oui, bien sûr, à Velingara.
À Velingara.
Dans la région de Kolda.
Très bien. Ben, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir contactés. Vous avez des questions sur la Turquie, un an après le putsch manqué de juillet 2016.
Oui, la Turquie a célébré le 15 juillet passé, le premier anniversaire du coup d'État manqué. Et la veille de la commémoration, plus de 7000 fonctionnaires ont été limogés. Qu'est-ce qui justifie ces limogages à la veille de la commémoration et quelles conséquences cela peut avoir la fonction publique turque à long terme?
Ouais, 7563 personnes, pour être très précis, ont été limogées dans le cadre de l'état d'urgence imposé depuis maintenant un an en Turquie. Bonjour Alexandre Billette.
Bonjour.
Alors 7563 personnes limogées la veille de cet anniversaire. Il faut à cela ajouter les dizaines de milliers de personnes arrêtées, les plus de 100 000 personnes limogées ou suspendues de leurs fonctions. Comment expliquer déjà cette dernière vague de limogeage ?
Alors ils sont en effet ces fonctionnaires soupçonnés d'être proches de Fethullah Gülen, comme à l'habitude, Fethullah Gülen qui est le cerveau présumé du putsch raté aux yeux d'Ankara. Donc c'est en effet survenu cette nouvelle vague d'arrestation, ou plutôt de licenciement la veille du putsch, mais vous le disiez, les suspensions ou les renvois de fonctionnaires sont quasi, enfin peut-être pas quotidiens, mais en tout cas ils ont lieu presque toutes les semaines depuis un an, donc il n'y a pas nécessairement de lien direct entre la commémoration du putsch le 16 juillet janvier dernier et leur renvoi. En revanche, avec tous ces licenciements, il y a des conséquences qui sont dramatiques sur la fonction publique turque.
Oui, conséquences, j'imagine, au sein de l'armée, au sein de la police, de la justice, de l'éducation. Quand on voit le nombre de fonctionnaires limogés, effectivement, forcément, cela a des conséquences sur le fonctionnement même de l'État.
Oui, tout à fait. Et effectivement, dans tous les secteurs de l'administration publique, même si les autorités turques assurent que le pays fonctionne, que les institutions du pays ne sont pas vraiment affectées par ce grand nettoyage, on dit à Ankara qu'il ne s'agit que de 3 à 4% de la totalité des employés de l'État, sauf que dans certains secteurs, on peut vraiment sentir les effets de ces purges. Effectivement, la justice en particulier, où les retards s'accumulent, par exemple, dans la tenue des procès, chez les militaires aussi, dans l'armée aussi, bien sûr, il y aurait, dit-on désormais, dans l'armée, davantage d'avions que de pilotes. Bon, malgré tout, la machine administrative turque fonctionne au quotidien. De nouveaux fonctionnaires ont été nommés. Ils sont en général plus jeunes, parfois moins qualifiés, souvent d'ailleurs assez proches idéologiquement de l'AKP, le parti au pouvoir, notamment dans le secteur de l'éducation, où il y a eu des dizaines de milliers de professeurs qui ont été remplacés par des professeurs souvent moins expérimentés. Donc la machine administrative fonctionne encore, mais c'est peut-être à moyen ou à long terme que l'on va voir vraiment les conséquences de ce grand ménage au sein de l'administration turque.
Ouais, des chiffres impressionnants, 8000 personnes limogées au sein de l'armée, 6000 médecins et employés du ministère de la Santé, 4000 juges et procureurs, et puisque nous sommes journalistes, parlons également de la profession, plus d'une centaine de journalistes sont actuellement en prison selon Reporters sans frontières, et près de 150 médias ont été fermés par décret depuis un an. Vous aviez une autre question, Eladji?
Oui, comment expliquer que l'opposition turque n'a pas réussi à s'organiser pour faire barrage à Erdogan?
On a un peu, c'est vrai, l'impression, Alexandre Billette, que l'opposition est assommée depuis un an.
Oui, tout à fait. Il y a deux raisons qui expliquent en fait pourquoi l'opposition n'a pas ne parvient pas à s'organiser. Alors d'abord, effectivement, ce n'est pas très facile de constituer une opposition aujourd'hui en Turquie, puisque le pays connaît un système politique de plus en plus autoritaire, donc avec moins de ressources, moins de visibilité pour l'opposition. Vous le disiez, moins de médias ouvertement critiques. Et en plus, vous savez, il y a une dizaine de députés, par exemple du HDP, le parti de la gauche pro-kurde, qui sont en prison, accusés de soutenir le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Donc d'une part, c'est très difficile de constituer une opposition. Et d'autre part, eh bien, les opposants à Recep Tayyip Erdogan sont eux aussi divers et variés. Vous avez donc ce parti pro-kurde à gauche, vous avez un parti, le CHP, le parti du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, donc c'est un parti plutôt, disons, nationaliste du centre ou de centre-gauche. Vous avez aussi les ultranationalistes, l'extrême droite, une partie de l'extrême droite qui s'oppose également à Recep Tayyip Erdogan.
Donc c'est très, une opposition très difficile, en fait. Éclectique, très émiettée. Il n'y a pas de rassemblement, une volonté d'alliance.
C'est très émietté et c'est des courants qui sont totalement contradictoires, qui sont opposés parfois les uns envers les autres. Donc effectivement, enfin, il y a une volonté de plusieurs, en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu en 2019, il y a cette volonté, certains demandent qu'une candidature unique, par exemple de l'opposition, émerge face à Recep Tayyip Erdogan. C'est ce qu'a tenté de faire le chef du parti kémaliste, donc le CHP, qui a organisé cette grande marche pour la justice ces dernières semaines, pour dénoncer le pouvoir en place, mais aussi probablement avec l'idée de se positionner en 2019 comme l'opposant naturel à Recep Tayyip Erdogan. Ce chef, ce leader du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a marqué des points très probablement avec cette marche qui se voulait non partisane et qui a été un succès populaire, mais on est encore très très loin de trouver un candidat unique pour l'opposition à Recep Tayyip Erdogan, alors qu'il ne reste que deux ans avant la prochaine élection présidentielle.
Prévue donc en 2019, et c'est vrai que cette marche a rassemblé des centaines de milliers de personnes, notamment pour réclamer la fin de la répression, marche qui a relié durant 3 semaines Ankara à Istanbul. Merci beaucoup Alexandre Billette d'avoir été en direct avec nous, en direct d'Istanbul. On salue également Eladji, donc, qui nous appelait du Sénégal. Pour tout vous dire, on essaye de contacter notre correspondant permanent à Jérusalem, Guilhem Détaille, qui est sur la place de l'Esprit sur l'esplanade des mosquées en ce moment même, puisqu'on avait des questions sur les tensions autour de cette esplanade depuis maintenant 3 jours. Voilà, des problèmes de liaison, mais nous rappellerons évidemment Guilhem Delteil demain pour répondre à Célestin qui s'impatientait au standard pour lui poser des questions. Donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, notre débat sur l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle CAN souhaitez-vous? Vos réactions nous intéressent, vous nous appelez et nous en parlons à l'occasion du symposium qui est organisé depuis hier à Rabat au Maroc par le nouveau président de la Confédération africaine de football. Il s'agit notamment de réformer la CAN. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
L'un des envoyés spéciaux de RFI à Rabat. J'avais envie de vous avoir ce matin dans l'émission, quelques minutes avant de lancer le débat, pour que vous nous racontiez un peu les coulisses de ce symposium. D'abord, expliquez-nous, racontez-nous qui participe exactement aux différentes tables rondes.
Tout le monde y participe, Juan. Ça ratisse extrêmement large. Tous les présidents de fédération, leurs secrétaires généraux et les sélectionneurs africains étaient invités. La plupart, d'ailleurs, sont venus, sont présents actuellement au Centre international de conférences Mohamed VI de Rabat pour ce symposium de la CAF, le premier du genre qui a été convoqué par le nouveau président de la Confédération africaine de football, le malgache Hamad, avec cet intitulé un nouveau football africain, notre vision, c'est-à-dire que l'objectif de ce symposium, à travers un certain nombre de groupes de travail, c'est de réfléchir à l'avenir du football africain avec les acteurs du football africain, mais également avec les experts, des journalistes qui peuvent participer à ces groupes de travail, et notamment sur réfléchir à l'avenir de la CAN. Tout simplement, il y a deux groupes de travail, d'ailleurs sur les 7 qui ont été réunis ici à Rabat, il y en a 2 qui travaillent spécifiquement sur la CAN, sur la compétition et sur le cahier des charges du pays organisateur. Alors il y a également d'autres aspects, hein, les compétitions interclubs, le football des jeunes, le développement. Donc ça ratisse extrêmement large au niveau des invités, d'ailleurs énormément d'anciens joueurs ont été invités à ce symposium, notamment on a croisé Joseph Antoine Bell ou même l'ancien attaquant algérien Rabah Madjer qui sont là pour apporter également une expertise.
Alors où en est la réflexion? Cela fait maintenant quasiment 24 heures que l'on débat, que l'on échange. On en est où? Et est-ce que vous avez l'impression, Antoine Grenier, vous qui êtes sur place, qu'on se dirige vraiment vers une mini-révolution et qu'il y aura effectivement des changements dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations?
Alors on en est où? Ça discute aujourd'hui, après la journée d'hier qui a été consacrée au débat, aux discussions, à un certain nombre d'hypothèses qui ont été évoquées, les différents groupes de travail rendent aujourd'hui des conclusions issues forcément de cette journée de travail, mais également de travaux antérieurs un peu plus en coulisses. Les conclusions rendues seront utilisées par le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour proposer ensuite à l'Assemblée générale de voter des réformes. Alors évidemment, la réforme qui est la plus attendue, c'est celle de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 questions qui se posent, celle de la périodicité. Est-ce qu'on garde une CAN tous les 2 ans? Est-ce qu'on passerait à une CAN tous les 4 ans? Également la période. On joue actuellement en janvier-février. Est-ce qu'on jouerait désormais en juin ou juillet? Et puis le nombre d'équipes. Est-ce qu'on passerait de 16 à 24? Selon un certain nombre d'indiscrétions issues du groupe de travail sur la CAN, on garderait la CAN tous les 2 ans.
Oui.
Et on passerait à une période de juin-juillet et la CAN abriterait désormais 24 équipes au lieu des 16 actuellement, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, évidemment.
Donc, 2 modifications majeures, si j'entends bien, et ce sera l'occasion, évidemment, d'en débattre dans quelques minutes avec les auditeurs. La CAN serait toujours organisée tous les 2 ans, mais désormais, l'été, donc en juin-juillet, avec 24 équipes au lieu de 16 actuellement. Merci Antoine Grenier d'avoir été avec nous. Je vous laisse, évidemment, rejoindre tout le gratin du football africain pour continuer cette réflexion sur l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous donnerons évidemment la parole aux auditeurs dans quelques minutes. Vous continuez à nous rejoindre, notamment sur les réseaux sociaux. Abdoulaye sur Facebook nous dit « L'augmentation du nombre d'équipes est une très bonne idée. Cela permettra aux petites nations d'accéder à la phase finale. » Gouda nous dit que pour booster le football africain, il faut maintenir la compétition tous les 2 ans. Et d'autres auditeurs comme Kwamsi estiment que la CAN en juin-juillet serait une catastrophe car les joueurs seront fatigués après une saison dans les championnats européens. européens, les joueurs africains ne se donneront pas à fond pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc ces points de vue-là. On continue le débat. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.